Deutsche Welle. Vue d'Allemagne.
Une chancelière et un ministre de l'Intérieur doivent être capables de dialoguer. La situation sécuritaire en Allemagne n'est pas simple. C'est pourquoi c'est une condition nécessaire. Et cette condition est remplie.
Deux semaines, c'est le délai que se sont fixés Angela Merkel et Horst Seehofer pour résoudre leurs différends autour de la politique d'asile. Nous verrons quelles répercussions la crise au sein des conservateurs allemands risque d'avoir au niveau européen. En deuxième partie de ce magazine, nous vous emmenons au Brésil, où l'art rencontre les heures les plus sombres de l'histoire. La chorégraphe rwandaise Dorothée Munyaneza y a présenté deux spectacles sur les génocides de 1994 dans son pays. Vous écoutez Vue d'Allemagne, willkommen et bienvenue. Il y a quelque chose de pourri au royaume de Merkel, ou du moins au sein de la coalition gouvernementale en Allemagne. Et il ne s'agit pas d'une crise entre les sociaux-démocrates et les conservateurs qui se sont résolus à une alliance de raison en février dernier, mais d'une crise au sein même du camp conservateur. La semaine dernière, on ne donnait pas cher du gouvernement d'Angela Merkel. Horst Seehofer, le ministre de l'Intérieur, a désavoué publiquement la chancelière après le refus de cette dernière de valider son master plan sur l'immigration, un plan en 63 points qui vise à réformer la politique d'asile de l'Allemagne. C'est le 63e point qui est source de discorde entre la CSU bavaroise et la CDU d'Angela Merkel, le refoulement dès la frontière allemande de demandeurs d'asile entrés dans un autre pays de l'Union européenne. Angela Merkel refuse que l'Allemagne fasse cavalier seul et plaide pour une solution concertée avec ses partenaires européens. Horst Seehofer aussi préférerait que l'UE prenne les choses en main, mais il ne croit pas que les 27 réussiront à s'accorder lors de leur prochain sommet prévu à la fin du mois. Ces derniers jours, le ton est redescendu d'un cran et les partenaires conservateurs se sont donné 14 jours de répit. Et c'est à la fois l'avenir politique d'Angela Merkel, mais aussi celui de l'Union européenne qui est en danger, selon la politologue Sabine von Oppeln de l'Université libre de Berlin. Elle revient tout d'abord sur les tensions entre le ministre de l'Intérieur et la chancelière.
Dès le début, c'était une coalition assez fragile. Notamment M. Seehofer et Mme Merkel, il y avait des tensions il y a très longtemps, même avant la construction de cette coalition. On peut dire presque que Mme Merkel a intégré dans son gouvernement son ennemi. Et c'était très sévère pour elle, mais c'était une stratégie politique, je dirais. D'autre part, M. Seehofer lui-même, il est très sous pression de sa propre fraction. Il a eu pas mal de difficultés au sein des chrétiens de la CSU. Et c'est pourquoi lui-même, il est assez dur. Et en plus, en autant, il aura les élections du Landtag en Bavière.
Les élections régionales.
Et c'est une situation difficile aussi pour M. Seehofer. Dans le système politique allemand, il y a une responsabilité beaucoup plus grande des ministres et un marge de manœuvre des ministres eux-mêmes qui est beaucoup plus grand que, par exemple, les ministres en France. En France, c'est le président et enfin le premier ministre qui dirige la politique. Mais en Allemagne, c'est aussi une marge de manœuvre beaucoup plus grande de M. Seehofer. Et ça explique un peu son attitude actuelle.
Un parti qu'on n'entend pas beaucoup en ce moment, c'est le SPD, qui fait aussi partie de la grande coalition. Comment expliquer le silence du SPD qui serait aussi concerné par l'éclatement éventuel de la coalition?
On ne peut pas dire que c'est un silence total. Madame Nahles disait qu'il n'y a pas automatiquement une continuation de la coalition et que le SPD va regarder les résultats de toutes ces affaires et aussi des négociations de Madame Merkel sur le niveau européen. Ce qui dit, j'ai l'impression que c'est le SPD qui attend la situation et les résultats des négociations sur le niveau européen et aussi entre CSU et CDU.
Quels sont les risques au niveau européen que la coalition en Allemagne éclate ou disons que le gouvernement soit déstabilisé comme il l'est actuellement?
C'est une situation assez dangereuse, je trouve, parce que maintenant, le gouvernement allemand est vraiment sous pression, mais on peut observé qu'en Europe, il n'y a pas beaucoup de gouvernements qui sont pour un règlement de la politique migratoire et le droit d'asile. Ça va être assez difficile de trouver des résultats qui seront acceptés sur le niveau national. Et finalement, s'il y a un éclatement de la coalition, ça va être le danger qu'on va avoir de nouveau des élections en Allemagne. Et c'est ce que craint tout le monde, qu'avec cela, on va avoir un renforcement de l'extrême droite aussi en Allemagne. Ce qui dit finalement le danger pour le niveau européen, dans le cas qu'on ne trouve pas une bonne solution, ça sera un renforcement, pas seulement en Allemagne, mais aussi en France, en Italie, dans les pays de l'Est, un renforcement des forces de l'extrême droite, et cela juste un an avant les élections européennes. Ça serait une catastrophe pour l'Europe.
La politologue allemande Sabine von Oppeln, spécialiste des questions européennes. Le sommet européen est prévu les 28 et 29 juin. Si les pays membres ne trouvent pas de solution concrète à la gestion des arrivées, Horst Seehofer prévoit de prendre des mesures de refoulement à partir de début juillet. Vous écoutez toujours Vue d'Allemagne et on quitte la scène politique pour la scène artistique. La 7e édition du festival Sena Brasil International a proposé à Rio de Janeiro des spectacles de plusieurs pays, dont deux œuvres de la chorégraphe, chanteuse et danseuse rwandaise Dorothée Munyaneza. Née au Rwanda, Dorothée Munyaneza a dû fuir son pays en 1994 avec sa famille quand a commencé le génocide. Elle vit aujourd'hui en France et a fondé sa propre compagnie Kadidi en 2013. Le spectacle Samedi détend fait allusion à une émission de radio populaire à Kigali, sa ville natale, qui diffusait les informations sur les 800 000 personnes qui ont été assassinées en moins de 100 jours. Un reportage de notre correspondante Marine Audacher.
Ils ont tué les intellectuels, ils ont tué les artistes, ils ont tué les poètes. Ils ont tué les riches.
Parmi les spectateurs qui sortent en silence de la salle du centre culturel, Soraya Martins, elle est productrice d'un festival international de théâtre. Elle est venue de Bel Horizonte, à plus de 400 km d'ici, pour connaître le travail de l'artiste rwandaise.
Ils ont tué les femmes enceintes. Ils ont tué les
nouveau-nés.
C'est difficile de répondre comme ça à brûle-pourpoint, car c'est un spectacle très fort qui parle de massacre, de racisme. C'est un spectacle très puissant et nécessaire, surtout en ce moment. Ce qu'il raconte remonte à 1994. Les histoires sont différentes, mais on vit depuis 1500 un génocide de la population noire et des indigènes au Brésil. Les médias ne veulent pas voir. L'art est la meilleure façon de sensibiliser et d'écrire notre histoire sur scène à la première personne. Comme noir, comme sujet.
On jouait à la corde à sauter, on jouait à cache-cache, on jouait à Rambo.
À quelques mètres de l'église de la Candelaria, là où se jouait la pièce, le souvenir des 8 enfants qui dormaient dans la rue, assassinés en 1993 par la police militaire, est encore dans toutes les mémoires. Il y a tout juste 3 mois, à Rio de Janeiro, la conseillère municipale Marielle Franco a été assassinée en pleine rue. Pour d'autres milliers d'anonymes, la mort est passée sous silence. Cette réalité brésilienne, Hugo, professeur de théâtre et comédien, ne l'a pas oubliée une seconde pendant le spectacle.
C'est la même logique aujourd'hui. La majorité des jeunes qui meurent au Brésil sont noirs et pauvres. L'histoire de l'esclavage, on en ressent les séquelles jusqu'à nos jours. L'esclavage sur le papier, c'est fini, mais il a laissé des blessures très vives et ce spectacle nous parle du massacre du peuple noir qui a encore lieu dans notre ville juste à côté.
Toute ma vie, je me souviendrai du 6 avril 1994. Les serpents et autres bêtes sauvages avaient foutu le camp où avaient été tués. Plus d'Anglais, plus de Français, plus de Belges, plus de Suisses, plus de ressortissants étrangers. Ils étaient tous partis, et nous avait laissés seuls dans la merde et dans le sang.
Allegra, elle, n'était qu'une enfant en 1994 et elle ne savait rien de cette histoire tragique.
C'est fou parce qu'à chaque fois qu'il parle de 1994 dans la pièce, je me suis demandé où j'étais à l'époque, en tant que blanche brésilienne qui étudiait dans une école bourgeoise où tout allait bien et que je n'avais pas la moindre idée de ce qu'ils traversaient pendant ce temps-là.
Les deux pièces interprétées par l'artiste pluridisciplinaire rwandaise, Samedi Détente et Unwanted, mélangent le chant, la danse et la poésie pour raconter l'indicible. Sur scène, Alain Mahé, d'origine bretonne, musicien, électro-acousticien, manie les couteaux. Un son strident, obsédant et dérangeant.
À la même époque, j'étais dans la ville de Sarajevo, pendant la guerre de Bosnie. En fait, en France, ce qui se passait au Rwanda était extrêmement masqué, pour des raisons extrêmement politique. À partir de là, moi, je me suis demandé pourquoi nous, en France, on a eu si peu d'informations sur ce qui s'est passé là-bas. Donc j'ai cherché une rage assez grande qui m'a pris.
On leur a dit, mais pourquoi vous nous contrôlez? Ça ne vous regarde pas, c'est pas une histoire de Français, c'est une histoire de Rwandais.
Indangamono.
Ils nous ont répondu, mesdemoiselles, on est désolés, mais on doit vous contrôler pour savoir qui est l'ennemi.
D'identité.
À chacun de ses séjours au Brésil, l'artiste rwandaise est frappée par ce pays colonisé, esclavagiste, métissé et à la fois violent qui ne la laisse pas indifférente.
Ça me travaille depuis un moment justement les similitudes entre mon pays, le Rwanda, et le Brésil. Quand je viens, je suis frappée par ce lien entre les peuples qui ont été emmenés ici par la force pour venir labourer les champs et enrichir les colons. Et en même temps, quel est l'endroit où on peut trouver sa dignité malgré tout? Et même toute cette violence qui est perpétuée contre les Noirs, comme ça me bouscule énormément, qui est comme un miroir de toute cette violence perpétrée contre les Noirs africains d'ailleurs, et qui est même perpétrée par nous-mêmes, contre nous-mêmes. Donc dans un génocide, ce n'est pas les Blancs qui sont venus tuer les Rwandais, c'est entre Rwandais un groupe qui a massacré un autre.
Un reportage de Marine Audacher, notre correspondante au Brésil. Vue d'Allemagne, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Vous pouvez comme toujours réécouter ce magazine ou vous abonner au podcast de l'émission sur le site dw.com/français. La semaine prochaine, vous serez en compagnie d'Hugo Flotatalon. D'ici là, portez-vous bien. Tchuss !